Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B est sur le point de commencer et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un nouveau dispositif pour adapter les bâtiments en zone inondable. Deux interviews, d'abord avec Pierre Jeannin de la ville de Rennes pour un bilan sur la mission 5G, puis second échange pour présenter le livre de Pierre Servin, Faire de l'habitat un commun. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis une recommandation, tout un programme d'animation à Rennes pour la fin de l'année. Bienvenue dans l'arène. Et on commence cette émission, comme chaque jour, avec l'info du jour que j'ai choisi pour vous. Aujourd'hui, un mot sur À l'abri, un nouveau dispositif imaginé par deux acteurs institutionnels, Eau et Vilaine et Rennes Métropole. Le public visé, ce sont les propriétaires d'un logement ou d'une entreprise située en zone inondable, dans l'idée de les accompagner pour adapter leurs biens face aux inondations, avec un diagnostic personnalisé, sans engagement et puis surtout financé à 100%. Et puis les solutions proposées sont-elles finançables ? Jusqu'à 80% en tout cas pour les particuliers. Des rencontres sont organisées pour présenter ce dispositif. Il reste deux rendez-vous, mercredi 20 décembre d'abord à 18h à Rennes Métropole et mardi 30 janvier, toujours à 18h, mais cette fois au pôle associatif de la Marbaudet. Pour plus d'infos, le mieux c'est d'aller jeter un œil au site métropole.rennes.fr. Allez, après cette courte info du jour, place à une première interview. Pierre Jeannin, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vous présente, vous êtes conseiller municipal à la ville de Rennes, délégué au numérique et à l'innovation. Ensemble, on revient sur les 54 propositions de la mission 5G lancée en 2020 par la ville de Rennes et qui ont fait l'objet d'un bilan la semaine dernière. Il faut commencer par resituer fin 2020, au mois d'octobre, l'annonce de, même un peu avant ça, l'annonce de l'arrivée des premières antennes 5G à Rennes fait débat. La municipalité annonce la création d'une mission dédiée avec la participation de 40 habitants, des élus et des non-élus. Et le résultat de leur travail, c'est un rapport qui sera publié quelques mois plus tard, début 2021, avec 54 propositions. Là, on se retrouve fin 2023. Une grosse partie d'entre elles ont été réalisées. C'est ça le bilan.
Oui, oui, tout à fait. On avait souhaité... C'est toujours le même problème pour ces démarches participatives. C'est toujours très, très bien au départ. On arrive à des avis qui sont très éclairants, qui sont très sensés. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Et on a une responsabilité, quand on est organisateur, animateur d'une telle démarche, d'aller jusqu'au bout, puis de montrer ce qu'on fait de ces demandes, de ces propositions. Pas simplement quelques semaines après ce qu'on avait fait, on avait pris des décisions tout de suite après, on y reviendra. Mais aussi 3 ans après, on en est où ?
Ce rapport, il a été construit en 8 axes, je peux en citer quelques-uns. Améliorer le dialogue local avec les opérateurs, soutenir les acteurs vers un numérique responsable, garantir la santé des Rennais, et puis cet axe, plus de transparence sur la 5G et le numérique, puisque c'était le point de départ, vraiment le sujet précis de la 5G. Et c'est dans ce sens que des parcours ambassadondes ont été créés et médiatisés dans la presse la semaine dernière. Ils seront proposés aux habitants en début d'année prochaine, donc ça va très vite venir. Pour faire simple, l'exposition à la 5G, en tout cas pour le moment et dans les conditions actuelles, n'est pas un problème de santé publique à Rennes, vu les mesures qui sont effectuées, on peut le dire comme ça.
On peut le dire comme ça, encore une fois, à la limite des connaissances actuelles. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que techniquement, objectivement, le téléphone émet plus que les antennes. Et donc, c'est vrai que les antennes émettent, c'est vrai qu'elles émettent un petit peu plus, il y a un petit peu de croissance ces dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là ? Ben, on doit être vigilant, on doit continuer à mesurer dans le temps, une fois, deux fois, tous les ans, on vérifie. Mais pour le moment, les taux d'exposition aux ondes électromagnétiques ou émises par les antennes sont globalement faibles.
Le seuil de vigilance, il est placé à 6 volts par mètre, sachant qu'ensuite il y a un seuil d'alerte qui est lui à 28 volts. Là, en jetant un petit coup d'œil ce matin sur l'observatoire des ondes, puisqu'il y a 10 antennes qui sont placées dans Rennes et qui permettent de mesurer en temps réel l'exposition aux ondes électromagnétiques, le point le plus haut était dans le quartier de la Courrouze à 2,9 volts par mètre, donc on est loin du seuil de vigilance. Il reste encore 14 propositions à réaliser et 3 qui sont temporairement closes. Pour quelles raisons est-ce qu'elles ont été closes ? Temporairement, ça veut dire qu'il y aura peut-être une autre étude de fait ?
Oui, si je puis me permettre, juste pour revenir sur les ondes, non seulement on a installé des capteurs dans la ville qui mesurent toutes les demi-heures, et c'est marrant parce qu'on voit le cycle des journées avec une consommation plus forte en fin de journée et moins forte pendant la nuit, évidemment, mais on fait aussi des mesures dans des établissements qu'on a considérés comme sensibles, qui sont les écoles, les crèches, les centres de loisirs, et on fait une fois par an en cherchant les valeurs les plus fortes sur une école, et on arrive à peu près dans les mêmes valeurs, mais on est vigilant. Et nous, on s'est donné notre propre seuil de vigilance à 3 volts par mètre. Mais donc, on est encore en dessous. Et donc, quand il y a un problème, on essaye de savoir, c'est un peu technique, mais ces valeurs d'exposition, d'où elles viennent. Et donc, on arrive à savoir, on peut les décomposer. Il y en a qui viennent du Wi-Fi, il y en a qui viennent d'un opérateur, d'un autre opérateur. Et puis, on va voir l'opérateur qui a la valeur la plus haute, puis on lui demande de réajuster la direction de l'antenne. Voilà, donc il y a une action derrière ces mesures. C'est pas juste, on est passif. Et donc, je reviens à la question. Oui, il y a des mesures. Enfin, on aurait eu 100% des actions réalisées, ça aurait été douteux. Nous, quand on a laissé les citoyens et les élus travailler et émettre des propositions, on les a laissés totalement libres dans ce travail, mais vraiment totalement libres. Hein. Moi, je me suis mis de côté. Et dans les propositions qu'il y a eu, il y a des propositions qui ne relèvent pas de la responsabilité de la ville. Et donc ça doit se faire au niveau national. Il y a par exemple une proposition qui était de demander aux opérateurs de brider les forfaits, de ne pas faire ce qu'on appelle le open bar, le débit illimité, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'impact environnemental, voire même l'exposition aux ondes, dépendent de la quantité de données de nos usages personnels. C'est-à-dire quand on va aller visualiser une vidéo en 4K, on va demander plus de data, plus de données, plus de débit, et donc on va solliciter plus les antennes, et en même temps, tout ce débit a un coût énergétique, à la fois d'énergie nécessaire pour transmettre l'information, de stockage. Et donc, les citoyens, les participants à la mission 5G, citoyens et élus, avaient demandé de limiter, d'aller vers des forfaits limités. Évidemment, c'est décidé au niveau national, les opérateurs décident au niveau national, donc pour le moment on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'impact sur ce sujet. Alors on dit clos temporairement parce que c'est des choses que mine de rien, quand on les rencontre, on en parle, même au niveau national on en parle, on leur dit ce serait bien que vous arrêtiez de dire du forfait illimité, peut-être qu'il faut responsabiliser, et donc c'est clos temporairement mais c'est pas définitivement clos, et bon, j'ai bon espoir aussi en travaillant au niveau national qu'on peut travailler sur des sujets comme ça.
Vous venez de le dire, le déploiement de la 5G il relève d'une compétence qui est de l'État. Aujourd'hui sur le sujet du numérique, les géants du secteur, je crois qu'on peut le dire, ont un boulevard pour se déployer à l'échelle mondiale avec peu de régulation de leurs activités, que ce soit en France comme en Europe, même si il y a eu des décisions prises assez récemment de façon assez forte pour tenter de réguler leurs actions. Ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'une municipalité, elle a vraiment de l'espace pour agir au-delà de la sensibilisation? On le voit là dans les axes de travail, il est beaucoup question de débat, d'information, de sensibilisation. Est-ce qu'on peut vraiment faire des choses concrètes et qui pèsent?
C'est la première question qu'ils et elles ont posée pendant cette démarche participative et citoyenne. Et on en parlera aussi tout à l'heure. On continue à discuter avec les citoyens sur le numérique. C'est la première question, c'est les marges de manœuvre. Quelles sont les marges de manœuvre pour une ville? Alors au départ, on a l'impression qu'on n'en a aucune, mais on en a. Alors c'est vrai que les principales, c'est la sensibilisation, l'information, la vigilance, mais on peut aussi essayer de contrôler. Alors c'est un petit peu plus difficile. Il y avait, pour donner un exemple, un des enjeux qui avait été identifié, c'est, on le sait, la difficulté par rapport au numérique de certaines populations. Alors aujourd'hui, on dit que c'est plus de la moitié qui a des difficultés à un certain moment avec le numérique. On parle de 40% qui ont des difficultés avec les démarches administratives dématérialisées, et puis on parle de 10-15% de personnes qui sont vraiment très éloignées, très en rupture avec le numérique. Donc cette proximité, cette formation à un numérique, c'est un gros enjeu, et nous on a décidé de prendre ça en main. Et donc on a recruté des conseillers numériques, on finance des associations du territoire pour travailler sur le sujet. Donc oui, il y a des choses qu'on peut faire. On est en train de travailler avec mon collègue de la métropole sur le principe de la donnée et de l'intelligence artificielle. Comment nous on peut réguler l'accès à la donnée, parce que si on ne le fait pas au niveau local, de toute façon ce sera fait au niveau national, enfin ce sera fait presque sans être fait, parce que ce sera open bar là encore pour les géants du numérique qui déjà aujourd'hui nous prennent toutes nos datas sans nous demander. Et donc voilà, on a des responsabilités politiques qui ne sont pas toujours exactement là où on le pense, mais il faut chercher, et c'est l'intérêt aussi de ce travail politique autour du numérique où là... Je peux peut-être faire cette petite parenthèse, mais dans le travail des citoyens au tout début du mandat, ils ont émis des propositions et on a travaillé sur les actions, mais le gros résultat aussi de ce travail qui a été fait par les citoyens et les citoyennes, ça a été de nourrir une feuille de route politique qu'on a faite sur le numérique au niveau de la ville et de la métropole. Alors ça peut sembler un peu du pipeau, du blabla, mais en fait, c'était de dire que le numérique, c'est pas qu'un problème technique, c'est pas qu'un problème d'ordinateur et de tuyaux, c'est un vrai problème politique, comme l'éducation, comme la politique des déchets, de l'urbanisme, et qu'on doit se poser les mêmes questions que dans toutes ces politiques sectorielles. C'est quoi l'impact social? C'est quoi l'impact écologique? C'est quoi l'impact éthique? Et donc, mine de rien, et moi c'était un souhait fort, mine de rien, cette démarche participative a orienté la politique de la ville et de la métropole sur l'enjeu du numérique.
Pour continuer à donner un peu quelques exemples concrets, vous avez cité ces conseillers numériques, donc 11 conseillers numériques qu'on retrouve à la fois sur les espaces sociaux communs, mais aussi des médiathèques dans Rennes. Sur le sujet de la sobriété numérique, des décisions ont été prises pour allonger la durée de vie des équipements municipaux, d'essayer d'utiliser du matériel reconditionné et faire appel au réemploi pour renvoyer notamment des ordinateurs via des filières avec l'association Envie 35. Je vois aussi la mise en place d'un guichet unique de téléphonie mobile. Est-ce qu'on peut essayer de dire concrètement ce que c'est un guichet unique?
Oui, je reviens juste sur les trois là. Alors, en conseiller numérique, bon, par principe, y a ces 11 qu'on a recrutés, mais il y en a plein d'autres qu'on finance, d'autres structures dans les quartiers. Et ils et elles sont importants et importantes. On est en train aujourd'hui de faire avec les collègues de la région, faire un tour de toutes ces assos qui travaillent sur ce qu'on appelle la médiation numérique, donc former au numérique, mais pas juste former, apprendre à utiliser un ordinateur, apprendre à bien le faire, à le faire avec du recul. Donc c'est tout le territoire qui travaille là-dessus, c'est pas que les 11, mais bon, c'est déjà pas mal. Sur le guichet unique de téléphonie mobile, oui, ça peut sembler très technique. En l'expliquant assez rapidement, l'objectif, c'est, typiquement, on est sur les marges de manœuvre, là, comment la ville peut reprendre les marges de manœuvre sur ces approches qui peuvent sembler hors de notre contrôle. Ben, c'est prendre, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, prendre en main l'aménagement numérique du territoire. Alors, ça veut dire quoi, aménager numériquement le territoire? C'est comme installer des routes, mais c'est des routes numériques, donc c'est à la fois les antennes de téléphonie mobile, mais aussi la fibre optique. Et donc on essaye de prendre en main, nous, cette responsabilité. Dans l'idéal, ce serait que le numérique soit un service public, hein, comme il peut y avoir, on peut avoir le service public de l'eau, là, aujourd'hui, hein, c'est une offre qui est publique. Et donc, étant public, on travaille sur la qualité de cette offre. On aimerait aussi travailler dans cette direction-là, hein, que le numérique, l'accès au numérique soit un service public. Et donc, le rôle aujourd'hui, alors non, là, je projette... on n'y est pas, hein, mais le rôle de ce guichet unique de la téléphonie mobile, c'est de savoir gérer ce qui se passe au niveau de la téléphonie mobile, l'installation des antennes, l'installation des pylônes, et puis dire, par exemple, aux opérateurs, ben, au lieu de faire 3 pylônes, faites-en qu'un seul, et puis entre vous, entendez-vous, et puis mutualisez, c'est comme ça qu'on dit, mutualisez ce pylône pour installer vos antennes. Aussi, c'est faites attention à ce que l'antenne elle soit pas trop visible, intégration paysagère, enfin, c'est d'essayer de travailler avec eux comme un point d'entrée, guichet unique, c'est un point d'entrée où les opérateurs, quand ils veulent installer de la téléphonie mobile, ils passent par nous, et puis on essaye de négocier pour faire en sorte que ce soit fait le mieux possible, le plus optimalement.
Donc on comprend que c'est un espace de dialogue au long cours entre la ville et puis les opérateurs de téléphonie. Là, la mission 5G, elle a pris fin. Le relais, il a été passé au CCNR, le Conseil citoyen du numérique responsable. C'était fin 2021, avec toujours des citoyens qui ont en fait été tirés au sort. Est-ce que c'était ceux qu'on trouvait déjà dans la mission 5G qui ont pris le relais ou...
Alors, deux choses. Déjà, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, c'est marrant. Enfin, c'est la boucle, hein. C'était les membres de la mission 5G qui ont demandé que ce serait bien qu'on continue à solliciter et à consulter les citoyennes et les citoyens sur le sujet du numérique, et donc on les a pris au mot. Et on a proposé à ceux et celles qui avaient participé à la mission 5G de continuer. Et donc il y en a, à la fin, il y en a 3 qui ont continué, et les autres on les a tirés au sort à nouveau. Et donc on a une vingtaine de personnes qui travaillent dur. On a fait près de 25 réunions en 2 ans et demi, hein, c'est beaucoup. Il et elle travaillent actuellement sur l'intelligence artificielle. On a déjà fait 8 réunions sur l'intelligence artificielle. Donc là, typiquement, on se retrouve dans le même sujet, hein. L'intelligence artificielle, ça semble être quelque chose qui vient de je sais pas où, là, d'hyper technique. Et donc il et elle réfléchissent et discutent avec les experts pour voir qu'est-ce que la ville de Rennes peut faire sur ce sujet. Toujours pareil, avantages, inconvénients, opportunités, risques, c'est une approche un peu, je dirais, un peu standard qui permet d'être objectif, c'est de voir aussi les bons côtés.
Des réunions qui sont donc plutôt mensuelles pour ce CCNR ?
Alors on a fait, à un moment donné, on était bimensuel et on trouvait que c'était trop parce qu'ils étaient là tout le temps le soir de 19 à 21h30. Donc on est plutôt sur un format mensuel, oui.
Vous avez évoqué l'intelligence artificielle qui fait partie des sujets d'actualité qui amènent à la fois des questions sociales, politiques, mais aussi environnementales, éthiques et économiques. Tout comme la 5G finalement en fin 2020. Ça semble aujourd'hui, je trouve, assez tabou de parler de ce qu'il y a de mauvais dans le numérique tellement il est devenu indispensable à notre modèle de société. Est-ce que vous, il y a des sujets, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, justement de l'intelligence artificielle ou encore de la protection des données, qui vous alertent plus que les autres? Il faut préciser qu'en plus d'être conseiller municipal, vous êtes aussi chercheur, plutôt dans le champ de la santé, sur l'utilisation de l'image et du numérique en neurochirurgie, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, oui, alors c'est pour ça qu'on peut dire avantage, inconvénient, opportunité, risque, hein. Il y a des aspects positifs dans la santé, on en voit évidemment, d'ailleurs c'est souvent le sujet qui est cité en premier. Parce que quand on peut améliorer la qualité de vie d'une patiente ou d'un patient grâce à de l'imagerie médicale ou à des robots chirurgicaux ou de la réalité virtuelle, si c'est efficace évidemment, on y va et la question ne se pose pas. Enfin, la question ne se pose pas, c'est pas exactement vrai. Tout de suite, c'est un équilibre quand même entre le coût, hein, de cette technologie. Alors pour revenir à votre question, aujourd'hui, il n'y a aucun tabou et c'est bien qu'on y soit là. Il n'y a aucun tabou à re-questionner l'intérêt de la technologie en général. Et c'est, encore une fois, c'est un scientifique qui vous le dit. Je pense que c'est un signe de maturité, sans reprendre l'histoire de la technologie et du progrès technologique, avec des guillemets entre les deux. On a beaucoup subi la technologie pour des raisons de productivité, de croissance, hein, à tout prix, donc qui faisait en sorte que on faisait plus avec moins de ressources, avec moins d'efforts humains, et on voit bien que cette course à la production infinie a des limites et qu'on doit étudier, qu'on doit aborder. Alors pour le numérique, c'est pareil. On a vu le numérique qui nous aide énormément dans notre quotidien, mais on voit les biais, alors qui sont nombreux, hein. Vous avez cité les enjeux, les grandes catégories d'enjeux. Et donc non, on a, et c'est bien, ça montre que notre société elle est mature si on est capable de questionner la technologie. C'est pas de pas être, comme on dit, poussé par la technologie, mais plutôt pousser le progrès, enfin, j'invente rien en disant ça, hein, mais quand on parle de progrès, il faut qu'on parle non plus de progrès technologique, mais de progrès de notre société en général. Et dans ces progrès, c'est d'être vigilant aux grands enjeux qu'on a aujourd'hui devant nous, les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux sociaux, hein, on voit bien de séparation qui peut se faire entre les très riches et les très pauvres, et ces notions de solidarité, on doit les aborder. Donc il faut que le numérique ou la technologie en général, les technologies, hein, il y en a d'autres, hein, et il y en aura d'autres, répondent à ces enjeux. Et donc qu'on trouve l'équilibre entre peut-être moins de technologie par moment, choisir ce dosage, de choisir le numérique quand il est utile, quand on en a vraiment besoin, mais pas qu'il soit obligatoire et subi.
Mais alors vous avez de l'espoir, sachant qu'on a dit qu'il y avait aujourd'hui peu de régulation à l'échelle française, européenne et mondiale. C'est difficile de faire peser ça sur les individus si au niveau politique on n'est pas encouragé à réfléchir de cette façon.
Non, tout à fait, mais il faut les deux. Il ne faut pas minimiser la responsabilité individuelle et notre force individuelle, hein, qui est dans nos choix quotidiens. Tout acte d'achat, tout ce qu'on fait, je vais dire vote, mais aussi, hein, tout investissement dans une association, c'est un choix, et un choix qui impacte le monde dans lequel on vit, hein, petit à petit, et puis nous individuellement, et les gens qui sont autour de nous, donc on a cette responsabilité-là, et puis évidemment, il y a une responsabilité nationale, européenne et internationale à réguler. Alors, on le fera, la régulation, parce que dans les domaines qu'on regarde autour de nous, il y a toujours eu de la régulation. Parfois, des gens prennent l'analogie avec la voiture. Comment la voiture est partie de manière hyper libre au départ. Il y avait pas de route, pas de panneau de signalisation, pas de limite de vitesse, pas de ceinture, pas d'alcool test, pas de... Et puis, progressivement, on a régulé pour la qualité, pour des raisons parfois qui sont aussi liées à la pollution. Alors, ça a pris beaucoup trop de temps. Là, si on veut réguler, il faut qu'on régule vite, parce que le numérique, c'est une des technologies qui s'est développée le plus rapidement possible dans l'histoire des technologies. Donc, il faut qu'on aille vite aussi en termes de régulation. C'est pour ça aussi que nous, élus, même élus locaux, on a la responsabilité d'aller porter cette voix au national. Et moi et mes collègues, on fait ça. On va au national, on va dans les associations d'élus, on va au Sénat, on va porter notre voix en disant ça va pas.
Il faut aller plus vite.
Il faut aller plus vite. Voilà ce qui est attendu. Consultons plus les citoyens et les citoyennes. Enfin, oui, porter des messages.
Je vous représente, Pierre Janin, vous êtes conseiller municipal à la ville de Rennes, délégué au numérique et à l'innovation. Les 54 propositions de la mission 5G qui a été lancée en 2020 par la ville de Rennes et qu'on a évoquées, elles sont à retrouver en ligne sur le site métropole.rennes.fr avec les prochaines dates pour, pourquoi pas, tester ce parcours ambassadonde qui sera proposé aux habitants début 2024. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Echoderon mi oideo, ayaradai dai, echodani oideo, echodani oideo, ayaradai dai, echodani oideo, echoderon mi oideo, ayaradai dai, echodani oideo, echodani oideo. I'm your day.
Hérode à quatre chairs par les Bubby Mice sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et un titre à retrouver sur l'album Le Petit Matin du Grand Soir. C'est sorti le 23 novembre et c'est le deuxième disque de ce quatuor féminin qui fait dans la musique klezmer et les chansons yiddish. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B. À écouter sur le 94.0 quand ça fonctionne. Là, vous êtes plutôt en train de m'entendre sur canalb.fr ou sur le DAB+, la radio numérique terrestre. Et c'est maintenant l'heure d'une deuxième interview. Pierre Servin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie du côté de Brest, enseignant-chercheur vacataire, et puis on cite ce laboratoire, le LABERS, le Laboratoire d'études et de recherche en sociologie, qui fait partie de l'UBO et dont vous êtes membre. Vous avez écrit un ouvrage, « Faire de l'habitat un commun », c'est son titre, qui est paru aux presses universitaires de Rennes durant l'été 2023. Et en près de 300 pages, vous proposez une enquête sociologique sur l'habitat participatif qui est construite autour de l'expérience de 16 habitats de ce genre dans l'ouest de la France. Il y en a 11 en Bretagne. Il faut commencer par dire que le point de départ, c'est que vous vivez vous-même dans l'un de ces habitats, c'est ça ?
Tout à fait, à Brest, qui s'appelle un habitat qui s'appelle Écoumène.
Et alors, est-ce que c'est courant de se servir, on va dire, de sa propre expérience comme point de départ à une enquête dans le domaine de la recherche ?
Alors, je dirais oui et non. Je dirais que c'est très rare qu'un sociologue étudie quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout et qui ne l'intéresse pas du tout à titre personnel. En fait, c'est même, je crois que ça n'arrive jamais. On pourrait même parler de pourquoi Weber s'intéresse à ce qu'il s'intéresse et pourquoi Durkheim s'intéresse à ce dont il s'intéresse. Il y a toujours des liens, toujours. Par contre, là, effectivement, ça va plus loin que c'est d'habitude. Disons que, par exemple, pour rester sur l'habitat participatif, il y a eu plusieurs études sur l'habitat participatif. C'était pas fait par des gens qui habitaient dans des habitats participatifs. Moi, c'est mon cas. Et j'ai joué sur ça, quoi. C'est-à-dire que ça amène à avoir des postures particulières, à avoir des dispositifs d'enquête particuliers. Mais je crois que moi, ce que ça a fait, c'est que ça a amené à poser des questions que je vois bien que les autres se posaient pas forcément. Quand je lisais des livres ou des écrits sur l'habitat participatif faits par des collègues sociologues, je me disais, oui, bon, bah, c'est intéressant, mais en fait, souvent, ils parlaient de quels sont les rapports entre l'habitat participatif, hein, c'est-à-dire entre les habitants et puis les professionnels de l'habitat, qu'ils soient architectes, artisans ou autres, et puis surtout les élus et puis la politique publique, ce qui est très intéressant. Mais moi, je me disais, mais en attendant, ça ne dit rien de comment on habite dans les habitats. Qu'est-ce que ça représente, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu, du coup ? Et moi qui suis dedans, bah, je voyais bien qu'il y avait plein de choses à dire, sociologiquement parlant, quoi. Donc du coup, je pense que ça a vraiment joué, ça a donné cette couleur-là, en tout cas.
L'ouvrage dont on parle, « Faire de l'habitat un commun », il est paru il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, mais c'est en fait une version retravaillée et synthétisée d'un travail que vous avez mené il y a 3 ans désormais, une thèse en sociologie que vous avez soutenue en 2020. Quel temps il a fallu pour mener cette enquête sociologique, là, sachant que vous êtes allé sur un territoire assez large, en Bretagne, Pays de Loire et Normandie ?
Alors le temps que ça m'a pris, effectivement, donc ce livre-là, c'est une version retravaillée d'une thèse que j'ai soutenue en octobre 2020. J'ai retravaillé plusieurs choses. Enfin, j'ai surtout enlevé des parties, en vérité, les parties les plus universitaires, les parties les plus épistémologiques. Enfin, en fait, je voulais que ça soit lisible un peu par, je dis pas par tout le monde, mais quand même davantage lisible que simplement les universitaires. J'ai coutume de dire moi qu'une thèse, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être évalué, alors qu'un livre, c'est fait pour être lu. Le temps que ça m'a pris, je me suis inscrit en thèse en 2014 et je l'ai soutenu en 2020. Donc si on calcule tout, entre 2014 et 2020, ça fait 6 ans. Ce qui est pas délirant parce qu'en fait, moi je travaillais en fait pendant ce temps-là. J'étais pas à plein temps doctorant.
On lit en quatrième de couverture que d'ordinaire, les parties communes des habitats, elles sont réduites au minimum, elles doivent rester neutres et fonctionnelles. On les considère comme le nid des problèmes entre voisins. Alors on pense au local poubelle, au local vélo quand il y en a un, aux escaliers aussi dans lesquels on peut se croiser. L'habitat participatif, il fait lui le pari inverse des parties communes traditionnelles. Il faut le dire avec une diversité dans les projets que vous avez observés. Vous en avez dressé une typologie que vous décrivez dans une première partie et qui sont accompagnés aussi de différents leviers financiers. Il y a différents choix qui sont faits. Est-ce que je peux vous laisser dire un mot sur cette diversité ?
Alors oui, j'ai fait une typologie parce que quand on parle d'habitat participatif, en fait, on parle d'un spectre très très large. Alors déjà, c'est pas très défini. Enfin, quelles sont les frontières entre qu'est-ce qui est vraiment un habitat participatif, qu'est-ce qui n'en est pas un, qu'est-ce qui n'en est plus. C'est un peu compliqué. Moi, je suis pas tout à fait favorable à donner vraiment une étiquette très claire parce que, en finalement, l'habitat participatif tel que je le définis, je suis pas le seul à dire ça pour le coup, c'est que c'est pas tant un statut juridique ou une forme architecturale, c'est une démarche. Et à partir du moment où c'est une démarche, et ben les démarches, elles ont leur vie, elles évoluent, elles peuvent s'arrêter, elles peuvent reprendre, elles peuvent continuer. Enfin, donc du coup voilà, c'est plutôt une démarche qui est de mettre en commun l'habitat, contrairement à ce qu'on trouve habituellement, c'est-à-dire effectivement comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'habitat ordinaire, les espaces communs, on essaie de les réduire au maximum. Enfin là, effectivement, c'était ça, le local poubelle, le hall d'accueil. Les escaliers, les espaces de distribution, etc. On essaie de faire en sorte qu'ils soient les plus petits possibles parce qu'en fait, ils sont pas intéressants. On n'y habite pas, quoi. Et puis, en plus, c'est là que c'est le moins habité. C'est là où il y a le plus de problèmes. C'est là où on a des confrontations, finalement, avec les voisins, parce qu'on est en rapport non voulu. Donc voilà, on essaie de les réduire au maximum et puis aussi de les neutraliser. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient neutres, qu'ils soient pas décorés, qu'on puisse pas rester longtemps parce que rester longtemps, ça serait être un squat. C'est quelque chose d'illégitime. Voilà, ça c'est l'habitat ordinaire, ça se fait comme ça en France, en Occident depuis longtemps, et puis on peut faire l'histoire sociale de l'habitat en France, en Occident, il y a ce processus-là de réduction et neutralisation depuis bien longtemps. Et effectivement, les habitats participatifs, eh ben, il y a toujours ce pari inverse qui fait que, au contraire, on va essayer d'augmenter les parties communes, on va essayer d'augmenter les espaces communs, on va en créer davantage, justement parce qu'on estime non pas que les espaces communs, c'est des endroits qui nous empêchent de s'approprier bien son chez-soi, mais au contraire, c'est des espaces qui nous permettent de travailler notre chez-soi et un chez-soi qui est un peu plus... Alors, à la fois le chez-soi dans mon propre logement et aussi un chez-soi entre voisins qui est une sorte de chez-nous, quoi. Et donc, voilà, à la base de tous les projets d'habitat participatif, c'est on essaye de travailler à mieux s'approprier l'habitat en faisant de l'habitat un commun. Voilà, si j'avais une définition assez large de l'habitat participatif, ça serait ça.
Pour revenir à la typologie, ce qui change, ce qui va varier, c'est le point de départ. Donc il y a des projets plutôt horizontaux, d'autres qui sont ascendants ou au contraire descendants, qui vont aller chercher l'aide de l'institutionnel, qui parfois vont être initiés par des institutionnels ou des groupes immobiliers. C'est le point de départ qui change.
C'est ça. Donc dans toute cette démarche-là, il y a plein de types différents. Alors on pourrait faire plusieurs typologies différentes, et celle qui, moi, m'a paru la plus importante, la plus pertinente, celle qui jouait une variable la plus grande, c'était... le rapport qu'ont les habitants avec les institutions au moment de construire le projet immobilier. La première opposition à faire, c'est entre les projets ascendants et les projets descendants. Ça, c'est un vocabulaire qui est très très courant dans la démocratie participative. Les projets ascendants, en fait, c'est les habitants qui montent un projet et puis qui vont aller solliciter des institutions. Donc on dit que c'est descendant parce qu'ils vont aller solliciter des institutions qui sont plus hauts. Là, en l'occurrence, ça va être des bailleurs sociaux et ou des collectivités territoriales. Ils vont les solliciter pour être aidés dans leur propre projet, mais pas seulement. C'est aussi pour, c'est un peu des lobbyistes, en fait, hein, ou des militants qui vont essayer d'interpeller les politiques publiques pour que la politique publique change et pour qu'il y ait davantage d'habitats participatifs, que ça se développe, que ça se diversifie, qu'il y ait de plus en plus de monde qui le fasse. Et puis ils ont bien réussi leur coup. Enfin, en tout cas, il y a toute une histoire dans les années 2005 à 2010. Ce travail-là de sollicitation, les collectivités territoriales ont mis un petit temps à répondre. Puis quand ils ont répondu, ils se sont mis à faire beaucoup de projets qu'on appelle des projets donc descendants, c'est-à-dire c'est les institutions qui eux-mêmes montent des projets et puis ensuite proposent ça à des habitants pour habiter dans l'habitat, quoi. Et puis il y a un troisième type d'habitat qui est finalement un qu'on oublie souvent quand on parle de démocratie participative, c'est ce que j'appelle des habitats horizontaux, c'est-à-dire c'est des groupes d'habitants qui vont pas particulièrement solliciter ou être en partenariat avec des institutions. Ça veut pas dire qu'ils le font tout seuls, leur habitat, parce que ils sollicitent plein de monde et plein de gens autour d'eux, ça se fait pas du tout tout seul, hein, un habitat comme ça, mais en tout cas pas des institutions et pas de manière durable. Et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'il y a un quatrième type, bon, ça apparaît pas dans le livre, ça m'a apparu après, mais que j'appelle par rebond parce que c'est de plus en plus les politiques publiques. C'est par de type appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire que les politiques publiques, les collectivités territoriales font un appel à manifestation d'intérêt qui veut se forme un groupe et par contre après c'est aux habitants de se former en tant que groupe, quoi.
Parmi
et ce qui est important à dire, c'est que de cette typologie-là qui est le rapport entre les institutions et les habitants, il y aura beaucoup de conséquences par la suite. parce que ça sera notamment dans la dynamique de groupe et de comment ça reste un projet et de comment on met en commun les choses et de comment on fait de l'habitat un projet. Ça sera pas du tout la même dynamique, que ça soit un habitat horizontal, ascendant ou descendant, de par son histoire, de par comment il est construit, de par qu'est-ce qui a été mis en place.
Parmi les 16 habitats donc participatifs auxquels vous vous êtes intéressé dans l'ouest de la France, il y en a 11 en Bretagne. On en retrouve donc plusieurs en région rennaise, du côté de Béthon, Saint-Germain-sur-Ille, la Rennes, dans une région, la Bretagne, qui est décrite, alors ça je l'ai lu dans des articles de presse, mais décrite comme particulièrement dynamique sur la création d'habitats participatifs. Est-ce que je peux vous laisser peut-être donner un exemple d'un de ces habitats qui vous a peut-être plus marqué que les autres pour essayer de raconter son fonctionnement interne?
Ah oui, alors je peux faire ça. Alors d'abord, il faut effectivement dire qu'il y a plusieurs territoires plus importants que les autres en France pour l'habitat participatif. Et c'est vrai que la Bretagne et l'Ouest de la France en sont particulièrement. D'ailleurs, quand je dis la Bretagne, à vrai dire, c'est surtout autour de Rennes et autour de Nantes. C'est historique, c'est pour plusieurs raisons, mais pour les mêmes raisons qu'ils le sont aussi pour tout ce qui est économie sociale et solidaire et pour le développement durable. Et donc, c'est important en termes de nombre de projets. C'est aussi important en termes d'associations qui se sont parmi les premières appropriées cette thématique-là de l'habitat participatif. Après, s'il faut citer un habitat, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. J'en pense à un en particulier qui s'appelle la Syrie, qui est à Saint-Germain-sur-Ille, au nord de Rennes, qui m'a marqué à plusieurs pour plusieurs raisons. Alors déjà, je pense une première, c'est parce que on se considère un peu comme habitat très proche chez moi à Brest et Écoumène, et puis à Saint-Germain-sur-Ille. Et puis aussi, quelque chose qui est peut-être important à dire, c'est que dedans, il y a un des habitants qui est devenu, très peu de temps après le fait qu'il ait emménagé son habitat en 2014, il est devenu un membre d'une association qui s'appelle L'Époque, et aussi de l'Habitat Participatif Ouest. Et ces deux associations-là font partie des associations qui structurent l'accompagnement et la promotion de l'habitat participatif dans l'Ouest de la France. Dans le livre, il y a un moment où je raconte un petit peu comment je rentre dans cet habitat-là pour un petit peu décrire comment sont les habitats, enfin les espaces communs et en quoi ils sont troublants. C'est-à-dire en quoi les espaces communs sont pas des espaces privés et sont pas des espaces publics. Et c'est pas un entre-deux non plus. C'est quelque chose d'autre, quoi. Et parce que ce sont des espaces qui sont habités par le groupe, pas par tel ménage ou tel ménage, mais par le groupe. Et c'est très troublant parce que c'est très inhabituel, en fait. Et puis il y a aussi plein de points d'interrogation de à quoi ça sert. C'est pas clair à quoi ça sert. Et pour autant, on voit bien que c'est quand même très fonctionnel. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez assez étrange à voir. Et y a tout un chapitre dans le livre où je parle de mon entrée dans l'espace commun de la Syrie, parce que justement, ça montre bien à quel point c'est troublant.
Bon, et ben justement, je lis le passage que vous évoquez. Avant d'entrer dans ce bâtiment, nous visitons la salle commune. Mon hôte m'explique qu'elle n'est pas encore achevée. Les habitants ont déjà installé une boule à facettes, des tables, des chaises, quelques rangements, mais il reste de la peinture à faire. L'habitant qui me fait la visite a aussi installé son canapé et son matériel de projection vidéo. En définitive, ce n'est pas tant le caractère inachevé qui étonne, mais la difficulté de lecture de la fonction du lieu, qui tient autant du salon privé que d'une salle de réunion. Une salle des fêtes, voire une salle inutilisée. La Syrie, qui donc a été lancée, créée en 2014, avec sur place 4 logements, je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça?
Ouais, c'est ça. Il y en a un cinquième maintenant qui s'est créé depuis, mais ça apparaît pas du tout dans mon livre parce que c'est tout récent, ça.
Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le peut-être même rien que l'apparence de ce logement, puisque des fois ce sont des maisons, des fois des immeubles. Quels sont les éléments un peu distinctifs de ce logement-là à Saint-Germain-sur-Ille?
Alors d'abord, oui, l'habitat participatif se reconnaît pas tant par des espaces, par des formes architecturales. Ça se voit plutôt à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a plus d'espaces communs. Et les espaces communs, ça peut être des salles communes. Là, en l'occurrence, il y a une salle commune. Et puis, il y a aussi des espaces qui sont des espaces de distribution, mais élargis. Il y a un espace commun élargi qu'ils appellent la rue Nord. Il y a à la base un espace de distribution, juste un couloir qui distribue dans les logements. Il y a aussi une fonction d'isolation thermique. Mais en fait, ils ont fait en sorte que ça soit grand. Il y a des tables, on peut s'y mettre. On peut y manger. D'ailleurs, quand nous, on avait fait l'entretien collectif, parce que moi, j'ai agi par entretien collectif, c'est là-dedans qu'on avait fait l'entretien. Et donc en fait, c'est une sorte de salle en plus, quoi. Et puis une grande salle en plus. C'est là qu'ils font leur fête collective aussi. Donc c'est comme si c'était un couloir, mais voilà, au lieu que ça soit un couloir banal, basique, comme un peu partout, et qui est juste un espace de distribution, et ben, en plus d'être ça, c'est une salle en plus.
Donc ça, c'est pour ce qui est de la Syrie, donc Habitat Participatif à Saint-Germain-sur-Isle, à une vingtaine de minutes au nord de Rennes. Le thème de la deuxième partie de votre ouvrage, c'est le travail du politique, avec une notion nouvelle dans le chapitre sur la communication, c'est celle de l'extension du domaine de ce qui se discute. Ça va du Wi-Fi au potager, en passant par la répartition des charges. Est-ce que je peux vous laisser développer un petit peu cette notion-là, et puis expliquer en quoi c'est politique ?
Bah alors je vous remercie de me poser cette question-là, parce que j'avoue que je crois que c'est le terme que dont je suis le plus fier, dont je suis le plus content, l'extension du domaine de ce qui se discute. Je sais pas, je trouve que ça sonne bien, quoi. Mais alors l'idée de l'extension du domaine de ce qui se discute, ça veut dire que en fait dans les habitats participatifs, à partir du moment où on habite ensemble, il y a toujours un jeu entre est-ce qu'on est voisin ou est-ce qu'on est cohabitant. Et en fait, on passe d'un registre à l'autre tout le temps. Et justement, ça fait vraiment partie de l'ADN, quoi, de l'habitat participatif. Et or, quand on est voisin, bah, il y a plein de choses qu'on n'a pas à parler avec son voisin, quoi. C'est ce qu'on appelle le privé, quoi, le domaine du privé. On n'a pas à discuter de, par exemple, comment on lave son linge avec son voisin. Alors qu'à partir du moment où on est cohabitant, bah, forcément, on doit parler, on doit discuter de pas mal de choses. Et donc, du coup, c'est ça que j'appelle l'extension du domaine de ce qui discute. Il y a plein de choses où on est beaucoup plus amené à discuter entre voisins de comment justement on gère le linge, comment on s'organise, comment on ferme ou pas telle ou telle pièce, comment on gère telle ou telle pièce, comment on paye le gaz, l'électricité, l'eau ou je sais pas quoi. La Wi-Fi, d'une part, c'est anecdotique et d'autre part, ça l'était pas. Je trouvais que c'était assez représentatif de... Il y avait deux personnes dans deux habitats différents qui disaient qu'ils aimeraient bien porter en discussion, en débat, la possibilité qu'on s'auto-contraigne à ne pas utiliser la Wi-Fi. Parce que ça pollue la Wi-Fi, parce que c'est pour des questions de santé, c'est pas bien. Et donc du coup, est-ce qu'on en fait un sujet de discussion ? Et ça, typiquement, mais c'est impossible entre voisins lambda de proposer, de dire est-ce que ça serait possible de poser comme discussion, de s'auto-contraindre à ne pas utiliser la Wi-Fi ? Bon bah là, dans les habitats participatifs, c'est possible de discuter de ça. Alors je dis pas qu'on discute de tout, parce que c'est impossible, ça serait impossible, ça serait invivable. Mais en tout cas, la porte est ouverte à que potentiellement on puisse parler de plein de choses. Et pour pouvoir le faire, eh ben, faut qu'il y ait des espaces pour en discuter, quoi. Et de fait, dans les habitats participatifs, il y a beaucoup plus d'espace et de temps de discussion qu'il y en a dans les habitats lambda, parce que c'est organisé autour de ça. Et quand je dis ça, c'est des réunions formelles. Il y en a beaucoup plus. Alors après, ça dépend d'un habitat sur l'autre, hein, quelles sont les régularités. Mais en tout cas, il y en a beaucoup plus qu'on va dire dans une copropriété lambda. Et puis, il y a aussi pas seulement les moments formels, quoi. Il y a tous les moments où on se rencontre dans le jardin, où tous les moments on fait des fêtes, parce qu'on fait des fêtes, où on fait des accueils, des apéros, des choses qui accueillent aussi au-delà de l'habitat. Bref, il y a plein d'occasions en fait qui suscitent et sollicitent de la discussion. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une extension du domaine de ce qui se discute. Et c'est politique dans le sens où, bah alors ça dépend qu'est-ce qu'on appelle politique, mais en tout cas moi, pour moi, la définition la plus intéressante, je trouve, de politique, je dis pas la plus large, hein, la plus intéressante, c'est justement quand on en arrive à discuter du monde social dans lequel on vit. Et puis qu'on discute de comment on fait pour délibérément changer ce monde social pour l'orienter dans un sens ou dans l'autre.
On comprend donc que le politique, il se travaille au quotidien dans ces habitats participatifs. Mais habiter ces lieux, c'est aussi un travail en soi. C'est le sujet de la troisième partie de l'ouvrage, avec la question du temps que je trouve intéressante. Un temps qui est donc lui aussi mis en commun à travers ces projets d'habitat. Et un temps qui passe différemment selon l'époque de lancement de l'habitat, puisque des habitats participatifs, on en trouve depuis les années 70. Peut-être avec des modes de cohabitation, qui ont évolué, qui se sont peut-être formalisés.
La plupart des habitats des années 70 et 80, en fait, c'était des familles de trentenaires qui arrivaient avec leurs jeunes enfants. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus diversifié. Il y a beaucoup plus de différences d'âge. Enfin, quand je dis différences d'âge, il y a des quadragénaires, il y a des quinquagénaires, il y a aussi des seniors, beaucoup plus. Ça ne se faisait pas dans les années 70-80, ça se fait beaucoup plus maintenant. Et puis, ces groupes-là des années 70-80 qui étaient des trentenaires, bah forcément, bah, les enfants sont devenus plus âgés, ils sont partis. Et donc du coup, bah souvent les parents ils sont maintenant dans des habitats avec des logements trop grands pour eux, mais comme ça se fait un peu partout, à vrai dire, hein, comme ça se fait dans les pavillons à peu près partout. Sauf que là, bah c'est quelque chose qui amène au fait que non seulement les habitants ont vieilli, mais c'est aussi le projet qui a vieilli. Et souvent il y a une sorte de perte de dynamisme du projet, quoi. Parce que le projet, ça se fait pas. Il faut le réanimer, le projet, en fait. Faut créer des nouveaux projets pour que le projet général persiste. Et l'habitat qui date de 1987, qui est clairement celui qui s'est maintenu le plus en activité, c'en est un où, de fait, il y a beaucoup de locations. Et c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de turnover avec des familles et des enfants. Et ça, c'est clairement, moi je parle des supports des communs, il y en a plusieurs, l'architecture est un des supports des communs, le juridique peut être un support des communs, bref, il y a plusieurs supports des communs, mais très clairement, les enfants sont un des premiers supports des communs, c'est-à-dire quelque chose qui crée une vie collective, qui, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, hein, parce que des fois on s'engueule à propos des enfants qui font n'importe quoi, ou à propos de comment t'as parlé à mon enfant, de quel droit on fait de l'éducation des autres ou pas.
Et on peut s'engueuler à d'autres sujets, puisque évidemment dans l'habitat participatif, il y a aussi le sujet des tensions avec des épreuves quotidiennes que vivent ces habitants, notamment avec un équilibre à trouver entre la distance et la proximité, on le lit dans votre ouvrage. Autre notion qui est utilisée dans le livre, mais vous l'avez déjà cité, c'est celle de voisins cohabitants, et puis celle du plus d'habiter. C'est quoi le plus d'habiter ?
Faut faire bien la différence entre habiter et loger. Loger, c'est on loge dans des bâtiments, alors que habiter, c'est une notion beaucoup plus, alors beaucoup plus floue, on pourrait dire, beaucoup plus philosophique ou beaucoup plus. En fait, c'est un rapport de moi avec mon milieu. C'est j'habite tel endroit. Quand je dis tel endroit, c'est pas simplement un logement. En fait, c'est un quartier, c'est une ville, c'est une région. Ce qui fait que, on a tous ce sentiment-là. On connaît tous ce sentiment qu'on a plus ou moins le sentiment d'habiter un lieu. Alors qu'il y a d'autres lieux qu'on n'a pas l'impression d'habiter, quoi. En fait, se sentir habité, c'est parce qu'on a des souvenirs qui sont liés au lieu, on a plein de choses qui sont familiers, on a plein de choses qui sont une sorte d'extension de moi-même, quoi. On a aussi des projets, et puis il y a aussi, on connaît des gens, et donc voilà, on habite plus ou moins, quoi. Et à mon avis, l'habitat participatif, je crois que le but premier de l'habitat participatif, c'est pas tant de faire un accès au logement, contrairement à ce que beaucoup de gens écrivent ou comme tel que c'est marqué dans la loi. Alors c'est un mode d'accès au logement, ça c'est indéniable, mais c'est en tout cas certainement pas un mode d'accès qui facilite le logement. C'est aussi un mode politique, ça c'est évident, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, je pense que dans tous les cas, le plus important, c'est de dire que c'est des l'habitat participatif. On cherche à habiter plus. C'est ça le sens même de la démarche, quoi. L'habitat participatif devient une sorte de support de quelque chose qui me permet de m'engager au monde, quoi. Enfin, ceux qui habitent dans un habitat participatif, ils se présentent souvent comme habitants là-dedans. Et puis, d'ailleurs, c'est assez visible que les gens extérieurs, ça les titille, quoi. Du coup, ils demandent alors comment ça se passe chez toi, comment ça se passe toujours, est-ce que vous en entendez bien? Enfin, ça éveille la curiosité parce que ça ajoute quelque chose, quoi. C'est quelque chose d'intéressant à parler. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose de l'ordre de l'habiter.
Je vous représente Pierre Servin, vous êtes donc docteur en sociologie du côté de Brest, membre du LABERS, le laboratoire d'études et de recherche en sociologie, et vous avez écrit cet ouvrage « Faire de l'habitat un commun » qui est paru aux presses universitaires de Rennes durant l'été 2023. Son tarif est de 25 euros, merci beaucoup.
Merci à vous.
What the hell are you doing here? Why do I do the said, buddy, calm down. You were so embarrassed. Seems like I should have known better than to turn my head like it didn't matter. Why do I do the things I do when I know I can't lose you?
Andy Schauf, The Things I Do sur Canal B, un titre à retrouver sur un album, The Neon Skyline, c'est sorti en 2020 et c'était le quatrième disque de ce multi-instrumentiste et chanteur canadien Andy Schauf, que vous êtes en train d'écouter dans l'arène sur Canal B. L'émission touche à sa fin, mais avant ça quand même, la recommandation du jour. Et la recommandation du jour, ce sont des conseils de choses à se mettre dans les oreilles parfois, à lire, à découvrir ou à vivre près de chez soi. Là, un classique, à savoir le programme des animations concoctées par la ville de Rennes et lancé le 2 décembre. Plusieurs marchés sont toujours à découvrir, notamment sur la place Hoche avec plein de chouettes créateurs qui exposent jusqu'au 23 décembre. Les projections sur l'hôtel de ville, elles débuteront elles vendredi 22 décembre. Une animation proposée chaque soir, toutes les 20 minutes de 18h à 21h 40 et c'est jusqu'au 7 janvier. Un spectacle est prévu au même endroit, donc sur la place de l'hôtel de ville, le soir du réveillon à 23h30. Pas de feu d'artifice cette année, mais il y aura toujours le traditionnel bal-concert aux Libertés à partir de minuit, donc le 31 décembre. Et puis les fêtes de fin d'année, ce sont aussi des visites guidées gratuites sur le thème de la lumière, des concerts à l'opéra. Tout le programme est à retrouver en ligne sur le site métropole.rennes.fr. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter Le Courrier de la Rennes. Le détail ainsi que les podcasts sont à retrouver en ligne sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt.